Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Academy. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, puisque vous êtes 40% de nos auditeurs à résider hors de l'hexagone français. Et c'est d'ailleurs hors des frontières françaises que cette émission va vous mener. J'ai en effet le grand plaisir de recevoir dans notre studio M. Jean-François Poncet, qui fut ministre des Affaires étrangères de 1978 à 1981, sous la présidence de M. Valéry Giscard d'Estaing, et qui est aujourd'hui, et depuis longtemps je crois, sénateur du Lot-et-Garonne. Monsieur le sénateur, bonjour.
Bonjour.
Juste une petite précision historique, oui. Parce que nos auditeurs adorent l'histoire. Le Lot-et-Garonne, est-ce que ce ne sont pas les anciennes terres de Jeanne d'Albret ?
Oui, si, vous avez raison, ça fait partie. Nous gardons un bon souvenir d'elle, mais évidemment que ça a été une des terres des guerres de religion.
Absolument. Mais en même temps, la reine de Navarre et la mère d'Henri IV nous a tout de même donné le roi Henri IV.
Elle nous a donné le roi Henri IV, elle a laissé un très beau palais sur une vieille rivière qu'on a remis en navigation, la Baïse.
Là, sur la Baïse, à Nérac, je crois.
Oui.
Tout cela, c'était pour vous demander, depuis combien de temps êtes-vous sénateur du Lot-et-Garonne ?
Depuis 1983. C'est la fin de mon troisième mandat de 9 ans.
Écoutez, voilà, c'est quand même assez important. Hein ?
Une belle continuité.
Une belle continuité. Ouais. Ça prouve que les gens du Lot-et-Garonne vous aiment beaucoup. Mais ce n'est pas du Lot-et-Garonne que nous allons parler, mais du Proche-Orient, puisque dans le cadre d'une mission parlementaire, vous avez été chargé par la Commission des Affaires étrangères du Sénat de produire un rapport sur la situation au Moyen-Orient. Et donc, vous avez effectué plusieurs grands voyages. Alors, le premier, c'était en octobre 2008.
C'est absolument. Oui, c'était en octobre 2008. Dans la péninsule arabique, nous avons été en Arabie Saoudite, au Yémen et dans les Émirats. Deuxième voyage, nous venons de l'accomplir, c'était Damas, Tel Aviv, Beyrouth et les territoires palestiniens, c'est-à-dire à partir de Jérusalem. Nous allons faire un troisième voyage en Égypte il y a dans 15 jours et nous ferons un quatrième voyage à Bagdad et Téhéran. Et nous terminerons en mai à Washington pour savoir ce que l'administration américaine a comme politique dans cette partie du monde où, évidemment, son poids est considérable.
Bien sûr. Et peut-être que les choses sont elles-mêmes en train de changer avec la visite récente du président de la République en Irak. Quand vous dites « nous », monsieur François Poncet, ça veut dire que vous êtes plusieurs sénateurs ?
Nous sommes deux. Il n'y a pas au Sénat de mission où il y ait un représentant de la majorité et de l'opposition. Par conséquent, j'ai une co-sénatrice socialiste, Mme Cerisier-Benguiga, avec laquelle j'effectue ces différentes missions et nous ferons un rapport conjoint.
Ce rapport est prévu pour quand ?
Juin.
Pour juin.
Et il sera suivi au début de novembre par un grand colloque sur le Moyen-Orient qui durera 2 jours au Sénat.
Ah, ça c'est une information intéressante. Quel est donc l'objectif de cette mission ?
C'est tout simplement de faire le point sur cette région du monde qui est si troublée et qui, à toutes sortes d'égards, est si importante pour nous. C'est une région toute proche de l'Europe. C'est une région d'où émanent, malheureusement, les menaces terroristes qui inquiètent toute la planète. C'est de là et d'Afghanistan, bien sûr. C'est la région d'où vient notre pétrole, dans une large mesure. C'est aussi une région où l'État d'Israël est installé. Et on ne peut pas parler d'Israël sans avoir dans l'esprit la Shoah et ce qui en résulte, puisque c'est un peu de cette tragique expérience que l'État d'Israël est né.
Est-ce que vos fonctions de ministre, auparavant, vous avez déjà mené dans ces pays ?
Oui, bien sûr.
Vous les connaissiez déjà ?
Enfin, les connaître, vous savez.
Oui, ils évoluent, bien sûr,
connaître,
aussi.
C'est un mot très ambitieux. Mais oui, j'avais été dans tous ces pays avant, et j'avais notamment fait un voyage avec le président Giscard d'Estaing, quand j'étais ministre et lui président de la République, dans une partie de ces pays, et notamment les pays du Golfe Persique et la Jordanie.
Oui. Est-ce que les problèmes ne sont pas extrêmement différents dans la péninsule arabique, finalement, dans l'Égypte et dans la Palestine et Israël? C'est pas tout à fait les mêmes problèmes,
non,
n'est-ce
non,
pas
non, 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 non. Les problèmes sont différents, vous avez raison. Il y a néanmoins un ou deux dénominateurs communs. Le principal dénominateur commun, c'est le problème du conflit israélo-palestinien. Le destin du peuple palestinien est quelque chose qui tient à cœur à l'ensemble du monde arabe, et je crois qu'il faut même aller au-delà, à l'ensemble du monde musulman. On a un certain mal à comprendre pourquoi ce problème est si aigu, si intense, vécu par des pays qui sont souvent bien loin de ces pays. Mais il en est ainsi. Et dans une large mesure, le comportement de l'Occident à l'égard des problèmes palestiniens est le test, le critère sur la base duquel l'objectivité de l'Occident est jugée. On estime très souvent dans le reste du monde arabe que nous, et évidemment surtout les États-Unis, sont partiaux, qu'ils ont beaucoup plus de considération pour Israël que pour les Palestiniens. Et ils y voient une partialité qui entame l'autorité qu'ils ont dans l'ensemble de la région.
C'est pour cela que vous utilisez l'expression « l'Occident » et non pas « l'Europe », par exemple. Quelle est la position européenne? Est-ce que la position de la France est différente? Est-ce qu'il y a une position européenne, d'ailleurs?
Non, il y a une différence. Il y a une différence en ce sens que les États-Unis, surtout avec Bush, sont vus en tout cas par les yeux des Arabes, ouvertement derrière Israël, et sont portés à sous-estimer, et surtout à mal défendre les droits des Palestiniens. La France a toujours adopté sur ce problème crucial, qui encore une fois est un dénominateur commun pour l'ensemble du Moyen-Orient, une attitude beaucoup plus équilibrée que les États-Unis. Elle a toujours défendu le droit des Palestiniens de constituer un État palestinien à côté d'Israël. C'était le cas lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères. C'est encore le cas aujourd'hui.
Quand vous effectuez ces voyages, monsieur le ministre, est-ce que vous rencontrez uniquement des chefs d'État et des responsables? Est-ce que vous avez des contacts à d'autres niveaux? Quel genre de contact avez-vous?
Non, je m'efforce d'avoir des contacts à d'autres niveaux. Parce que les officiels vous disent plus ou moins tous la vérité officielle du moment, qui n'est pas sans intérêt. C'est la position des pays. Mais ce n'est pas forcément la position de l'opinion arabe, de ce qu'on appelle la rue arabe. C'est même souvent pas le cas. Donc je fais ce qu'il faut pour rencontrer des groupes spécialisés d'études, les think tanks, il y en a maintenant dans tous les pays, qui sont en général beaucoup plus indépendants. Je vois des journalistes, les grands journalistes locaux, qui eux aussi sont en général plus indépendants. Les opposants aux régimes en place. Je vais aller en Égypte, je vais voir les frères musulmans. Je reviens de Damas, où j'ai rencontré la personnalité qui dirige le Hamas. D'ailleurs, les Israéliens en ont été furieux. Ils ne veulent pas avoir de contact avec le Hamas, mais le Hamas est représentatif. On ne fera pas la paix sans lui. Par conséquent, ça ne sert à rien de ne pas le rencontrer, que les gouvernements ne puissent pas, c'est possible, mais moi j'étais libre, je n'ai demandé l'autorisation à personne, et j'ai passé une heure et demie avec M. Méchal, qui est le patron civil, patron politique du Hamas. Et quand je suis arrivé en Israël, l'ambassadeur de France m'a annoncé que toutes nos visites avaient été annulées auprès des officiels, à cause de cette rencontre autour de laquelle nous n'avions fait aucune publicité, mais évidemment, les choses se savent. Mais je savais bien qu'elles se seraient. Je n'ai pas été surpris, autre mesure, par une attitude un peu étroite d'esprit et, à mon avis, un peu myope de la part d'Israël, qui changera, forcément, comme elle a changé vis-à-vis de Yasser Arafat et de l'OLP. D'ailleurs, le Hamas lui-même change et devient beaucoup plus fréquentable qu'il n'était.
Ça veut dire que, en tant que sénateur en mission, vous organisez vous-même vos rencontres.
Absolument.
Vous ne demandez de permission à personne. C'est votre programme qui s'applique.
Non, je demande la permission à personne. Et je me mets directement en rapport avec les ambassadeurs. En général, je procède avant ces missions à des auditions au Sénat, où nous convoquons tous ceux qui en France sont des spécialistes du pays ou de la région où nous allons. Et parmi ces spécialistes, il y a les grands directeurs du Quai d'Orsay, que je ne voudrais pas exclure de cette information, cette préparation au voyage. Mais je ne demande aucune autorisation et mes déplacements sont préparés entre l'ambassadeur sur place et moi. Et en l'espèce, s'agissant du Hamas, je ne suis pas passé par l'ambassadeur de France là-bas parce qu'il n'avait pas le droit.
Il y en a un à Damas.
Mais il n'a pas de contact avec le Hamas. Donc j'ai pris d'autres
circuits.
D'autres circuits, exactement.
Si vous aviez un vœu à formuler pour cette situation, bien sûr, on espère tous une paix. Est-ce que cette paix peut un jour stabiliser ?
C'est-à-dire qu'il me semble que cette paix dépend de deux choses. Elle dépend d'une réunification du mouvement palestinien qui permette de dépasser ce clivage entre l'autorité palestinienne et Mahmoud Abbas, qui la représente, et le Hamas. Sans cette rencontre, on n'aura pas de vrai partenaire palestinien. Et deuxièmement, au moins autant, sinon plus, elle dépend d'une évolution à Tel Aviv, d'Israël. Le drame auquel on assiste et les élections qui viennent d'avoir lieu en sont la meilleure illustration, c'est un basculement vers la droite du corps électoral israélien. Et c'est évidemment un basculement qui ne le prédispose pas à une négociation où il faudra bien faire des concessions. Si cette évolution ne se produit pas, je pense que Barack Obama va essayer de la provoquer. Mais les Israéliens ont à Washington, à New York, des groupes de pression très bien organisés, très puissants. Et je ne crois pas que le président des États-Unis soit libre de faire ce qu'il veut, surtout quand il est démocrate. Par conséquent, il y a là une interrogation sur l'évolution d'Israël par rapport à ce qu'il faudrait faire pour arriver à un accord avec les Palestiniens. Accord qui a quel objet ? Créer deux États, ou créer à côté de l'État juif un État arabe, pas forcément d'ailleurs musulman, parce que le mouvement palestinien n'est pas le Hamas. Oui, il est un mouvement musulman, mais ce n'est pas le cas de l'autorité palestinienne et il n'y a pas de vague de fondamentalisme islamique dans les territoires palestiniens. En revanche, je disais qu'il y a des dénominateurs communs. Il y en a évidemment un autre dans cette région, c'est le fondamentalisme religieux. Et on le trouve aussi bien chez les chiites que chez les sunnites. Et il faut avoir dans l'esprit qu'un des grands changements par rapport à l'époque où moi j'étais ministre et où j'allais avec Giscard d'Estaing dans cette région, à l'époque, cette césure sunnite-chiite n'existait pas. Aujourd'hui, elle est majeure. Et un peu comme de notre temps, au moment où le protestantisme s'est installé en Europe, qui a conduit à des guerres de religion, enfin nous avons tout ça dans l'esprit, il y a entre sunnites et chiites un état de tension permanent qui ne facilite pas forcément l'évolution de la région ni les relations de l'Occident avec cette région parce qu'il y a une sorte de surenchère entre les deux et ça n'est pas facile de se piloter, mais il faut tenir compte de cette donnée.
Vous allez faire paraître votre rapport ou remettre votre rapport au Sénat au mois de juin 2009. Oui. Nous sommes actuellement en février. Est-ce que vous ne pensez pas que la situation peut tellement évoluer entre les deux que le rapport, vous devrez l'actualiser jusqu'au dernier jour?
Oui, c'est probable. Je crois que ce que vous dites est vrai. C'est probable, ne serait-ce que parce qu'il y a les inconnues majeures. La première, nous en avons parlé, c'est les perspectives entre Israéliens et Palestiniens et le rôle que l'Amérique peut décider ou ne pas décider de jouer, les pressions qu'elle peut décider d'exercer ou non. Et puis vous avez un autre problème absolument majeur dans la région, c'est l'Iran, et c'est le programme nucléaire iranien. Le président des États-Unis a pris la sage décision de tendre la main à l'Iran et d'ouvrir une négociation avec les Iraniens. Mais l'objet de cette négociation, dans l'esprit des Américains, c'est évidemment de persuader les Iraniens de renoncer à se doter d'une arme nucléaire. Ce que moi j'entends de la part des pays arabes et des dirigeants arabes à qui j'ai posé la question, ils ne pensent pas que les Iraniens renonceront. Ils pensent qu'ils vont tergiverser, négocier, gagner du temps, ce qu'ils font avec beaucoup de talent, mais qu'ils ne se prêteront pas à une renonciation de leur part à l'arme nucléaire. Alors, s'il en est ainsi, se posera la question de savoir si les États-Unis et Israël s'accommoderont d'un Iran nucléarisé ou si, à un moment ou un autre, le problème de la destruction militaire de ces sites ne sera pas sérieusement envisagé. On en avait sûrement envisagé très concrètement la possibilité. Et puis, je crois qu'en mesurant les risques qu'une opération de ce genre, les risques politiques d'une opération de ce genre, Bush lui-même avait reculé. Il avait vraiment à deviner. Je dirais que les Américains aussi renonceront plus tôt. Donc je crois qu'il faut se préparer à un Iran qui aura un arsenal, un petit arsenal nucléaire, avec les conséquences que ça aura, qui sont très regrettables. Parce que je ne pense pas que l'Arabie Saoudite ni l'Égypte acceptent de ne pas avoir face à l'Iran des possibilités, des armes à peu près équivalentes.
Je voudrais vous remercier, Monsieur François Poncet, d'être venu dans le studio de Canal Academy et vous inviter à venir quand vous publierez ce rapport, si votre emploi du temps vous laisse la possibilité, vous inviter à venir de nouveau nous le présenter dans une émission peut-être plus précise, puisque le rapport sera publié. Merci infiniment.
Très volontiers. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.